c'est la boîte à musique.
Bonjour, c'est Anne sur Altitude FM. Venez avec moi à la découverte d'un compositeur de l'époque romantique. Aujourd'hui, je vais évoquer pour vous Franz Liszt, l'artiste romantique par excellence. Connaissez-vous cet air ? C'est la plus fameuse des rhapsodies de Franz Liszt, la rhapsodie hongroise numéro 2. Sa deuxième partie est souvent utilisée dans les dessins animés ou jouée dans les fêtes foraines, sur les orgues de Barbarie. Elle fait partie de la culture populaire du XXe siècle de toute l'Europe. Par exemple, on l'entend dans Tom et Jerry et dans Qui veut la peau de Roger Rabbit, Bugs Bunny est interrompu par un coup de téléphone qui demande à parler à Franz Liszt. Et ce dernier lui répond qu'il ne connaît pas, que c'est un faux numéro. On peut définir la rhapsodie comme une pièce instrumentale de forme libre, une fantaisie d'inspiration populaire folklorique. Les rhapsodies, dans la Grèce antique, étaient des morceaux chantés par des musiciens itinérants. Rhapto veut dire coudre et en grec ancien, oide veut dire chant. Donc les rhapsodies, ce sont des chants cousus ensemble. Cette œuvre, la rhapsodie hongroise, que les chants populaires de son pays lui ont inspirée, l'accompagne toute sa vie. Il en a écrit 19 entre 1846 et 1866. Franz Liszt disait « Les chants hongrois sont devenus le sang de mon âme ». En fait, c'était de la musique tzigane et non des chants hongrois traditionnels. Et c'est au fin fond de la Roumanie, sur les domaines des paysans, lorsque l'hiver faisait rage, à la lumière des flammes d'immenses cheminées que Liszt jouait. Il entendit un jour un violoneux appelé le Barbu, un virtuose qui fut pour lui une révélation. Il entendait le violon de la profondeur des âges. La musique des hauts plateaux de l'Inde, vieille d'un millénaire, faisait irruption sur la scène de l'Europe, puisque grâce à Liszt, cette fascination allait toucher tout l'Occident. Liszt envoûtait les foules. Il était acclamé partout où il passait. Devenu riche, il employait son argent à aider ceux qui en avaient le plus besoin. C'était une personne très généreuse. Il jouait pour les pauvres, pour les vieillards, pour les victimes d'inondations ou autres cataclysmes naturels. Il aidait aussi ses amis financièrement. Il a donné de l'argent aussi pour que le monument de Beethoven à Bonn puisse être érigé. Franz Liszt est né dans un petit village de Hongrie en 1811, sur un des domaines des princes Esterházy, dont son père était l'intendant. Son père était un excellent musicien amateur et il a été son premier professeur. Nous allons voir comment ce Paganini du piano a été la figure de proue de toute son époque, de tout le siècle romantique. D'abord, dans les années 1820-1840, on voit l'éclosion d'un génie. En effet, le petit Franz a donné son premier concert à l'âge de 9 ans, et le deuxième à 11 ans, à Vienne, en 1821. Beethoven, qui assistait à ce récital, s'est rendu compte de son prodigieux talent de pianiste et de ses qualités de musicien. Il lui prédit alors un bel avenir. Des amis de Beethoven lui garantissent une pension pour 6 ans pour qu'il mène des études approfondies dans tous les domaines de la musique. Il étudie à Vienne, en héritant de la tradition beethovenienne, et de Salieri, le contemporain de Mozart, pour la composition. 2 ans plus tard, ses parents le conduisent à Paris. Il connaît d'emblée le succès. Le facteur de piano français Erard le recrute pour faire de la publicité pour le nouveau piano. Le piano est un instrument tout récent, moderne à l'époque. Et il fallait lancer ce nouveau piano. Liszt n'avait que 12 ans. En échange, Erard finança sa tournée en Angleterre en 1824. Le jeune virtuose joue alors devant le roi George IV au château de Windsor, sur un piano Erard bien sûr. Paris devint sa résidence principale et il est l'une des étoiles de la vie artistique et littéraire. Il fréquentait les artistes romantiques, Victor Hugo, Lamartine, Georges Sand. Et 3 musiciens l'ont particulièrement marqué, Berlioz, Chopin et Paganini. Berlioz l'a fasciné avec sa symphonie fantastique. Et la musique de Chopin l'a profondément touché. Ils deviennent amis, partenaires, indissociables, l'un introverti et l'autre le contraire. En 1832, lorsqu'il assiste à un concert de Paganini, il est bouleversé. Il a 20 ans et il se dit qu'il veut devenir le Paganini du piano. Il se met frénétiquement au travail et compose les grandes études de Paganini, avec par exemple un concerto pour violon en si mineur qu'il baptise la campanella, la clochette, car la partition de Paganini faisait sonner une clochette, que Liszt sait faire tinter aussi sur le clavier. Ce morceau est un des plus difficiles à jouer au piano. Dans son concerto pour piano numéro 1, il donne un rôle à un autre instrument modeste, le triangle, utilisé ici en solo. Nous allons écouter le scherzo, morceau très rapide, fait pour divertir, car en italien, scherzo signifie plaisanterie musicale. Thank you. Sa virtuosité et son physique avantageux, son charme, ont provoqué une véritable listomania, une sorte d'hystérie de masse. Son public était ébloui. Dans sa vie mondaine, il avait de nombreuses liaisons, houleuses, mais une rencontre décisive va changer sa vie. C'est celle d'une princesse russe qui a fui son pays et son mari, l'une des plus grosses fortunes de l'Empire des Tsars. Elle voyageait à travers l'Europe et recherchait son destin, qui prit la figure de Liszt. Cette femme est un personnage haut en couleur, romantique. C'est une femme philosophe et très pieuse. Elle transforme radicalement la vie de Liszt. Elle lui fait honte de son mode de vie. Du jour au lendemain, il cesse de voyager. Il accepte un poste au service d'un duc à Weimar et s'installe donc dans la ville de Goethe comme directeur général de la musique. Les années les plus enrichissantes de son existence, de 1840 à 1860, il les passe dans la patrie de Goethe, à Weimar, au poste de maître de chapelle. Au départ, le maître de chapelle, c'était une personne chargée de faire chanter la musique liturgique. Et ensuite, c'est devenu le directeur général de la musique de la ville, le maestro. Il est à la fois pianiste, chef d'orchestre, intendant de théâtre. Il remonte le vaisseau fantôme de Wagner, qui était exilé à l'époque. Et il l'aide financièrement, comme on l'a vu lors des derniers épisodes. Il monte aussi Lohengrin et organise des festivals pour Berlioz, son frère profond en romantisme. Schumann, qui était plutôt le pôle opposé, l'intéressait beaucoup pour son génie, incompris. Liszt a beaucoup milité en la faveur de Schumann, qui n'était pas apprécié à ses débuts, comme nous le verrons lors d'une prochaine émission. Liszt jouait surtout Chopin et Beethoven. D'ailleurs, il a été le premier à jouer toutes les sonates de Beethoven. En 1850, Liszt transcrit des arrangements pour piano qu'il appelle Nocturne, en hommage à son ami Chopin, décédé l'année précédente, qui avait sous ce titre écrit tant de morceaux sublimes pour piano. Mais on connaît ces morceaux sous le nom de Rêve d'amour. Nous allons écouter le rêve numéro 3 en la bémol majeur, dont les premiers mots sont « O lieb, so lang du lieben kannst »« Amour, tant que tu es capable d'aimer ». C'est l'expression musicale parfaite de l'ardeur romantique du poète. Un éternel amoureux. Une des œuvres les plus connues et les plus appréciées de Liszt. C'est aussi une des plus faciles à jouer. Une petite pièce de salon qui exige peu de technique par rapport aux œuvres de concert qui lui servaient au contraire à faire la démonstration de sa virtuosité. Liszt écrivait aussi des études pour préparer ses concerts. développer sa technique. Comme la célèbre Ronde des lutins, composée en 1863, elle nous donne l'image d'un monde surnaturel, bienveillant, où les lutins font des cabrioles, expriment leur joie de vivre. Mais c'est un morceau très difficile à jouer, à la vitesse prodigieuse que voulait Liszt. Nous allons écouter le scherzo, jovial, plein d'entrain. Liszt est aussi l'inventeur du poème symphonique, c'est-à-dire une œuvre orchestrale composée d'un seul mouvement. Le plus connu s'intitule « Les préludes ». Il l'a conçu en 1848 en s'inspirant des méditations poétiques d'Alphonse de Lamartine, où le poète dépeint sa vie comme un prélude à l'au-delà. Les préludes commencent par une introduction solennelle au thème héroïque de l'œuvre. Puis, en contraste, vient le thème de l'amour fragile. Ensuite éclatent les violents orages de la vie, puis une tranquillité pastorale. Enfin, une musique martiale annonce une gigantesque bataille qui se termine triomphalement par un retour au thème héroïque. C'est donc une œuvre parfaitement romantique.
Thank you.
Les années 1860 à 1886 sont celles de la maturité. Horriblement déçu de n'avoir pas pu obtenir du pape l'autorisation de se marier avec sa princesse, car celle-ci était divorcée, il repart sur les routes, voyage à travers toute l'Europe, du nord au sud, d'est en ouest, de Rome à l'Angleterre, de Suisse en Italie. En 1865, il est à Rome, où il se sentait vraiment chez lui, surtout au Vatican, où il devint abbé de l'ordre de Saint-François, car il avait été touché par une crise mystique, inspirée par sa dulcinée russe. C'est aussi à Rome, en 1881, que son 70e anniversaire est célébré par une série de concerts. Cette même année, il compose les valses oubliées. La valse numéro 1 en fa dièse majeure est sa préférée. Elle témoigne de l'adoucissement du compositeur vieillissant. Sa mélodie rêveuse évoque des plaisirs dont il se souvient avec tendresse. L'ambiance semble nostalgique, certes, mais la musique est presque impressionniste et tournée vers l'avenir. D'autres paradoxes représentent la nature profonde de Liszt. Car même attaché au catholicisme, il était fasciné par le satanisme. Et donc par la figure légendaire de Faust, qui vend son âme au diable, Méphistophélès, en échange de la connaissance et de la puissance. Il a écrit 4 Méphisto-valses. La première, la plus connue, met en musique un passage où Méphisto et Faust interrompent une fête de mariage dans une auberge. Méphisto s'empare du violon, d'un musicien, et joue une danse déchaînée qui plonge tout le monde dans une frénésie orgiaque. C'était un morceau très audacieux pour l'époque, et c'est aussi un tour de force pianistique. Nous allons l'entendre par Katia Bouniatichvili en concert en 2014. Thank you. en 1886, Liszt a 74 ans. Il joue pour la dernière fois devant la reine Victoria. Puis rentre à Bayreuth pour voir sa fille, Cosima, qui était devenue la femme de Wagner et sa veuve depuis peu, que Wagner est mort en 1883. Liszt meurt le 31 juillet. Il survit à son gendre. On peut donc dire que le génie créateur de Liszt, la magie de son jeu, ainsi que sa générosité envers les musiciens de son époque, en font réellement la figure de proue du romantisme. Romantique, il a été dans sa quête éternelle d'un enracinement impossible. Son œuvre est empreinte de nostalgie, mais figure déjà l'impressionnisme qui va suivre. On peut entendre dans ses années de pèlerinage, inspirées de ses voyages en Suisse et en Italie, et même dans certaines de ses valses oubliées, une musique qui annonce celle de Debussy. Je vous donne rendez-vous sur Altitude FM tous les troisièmes jeudis du mois à 17h.
Altitude FM.